Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est en pleine semaine. On est mardi et commence la formation rédacteur pro avec 10 élèves. Je suis ravi, on a fait le plein. Merci à vous pour votre soutien, merci pour tous les contacts, merci pour tous les échanges, c'est super. Donc on démarre pour 3 mois là, on va bien se marrer. Je suis en train d'écrire plusieurs choses en ce moment et puis je prévois le programme aussi de rédacteur pro. Et donc pour le coup, il y a plein de connexions qui se font. Il y a un sujet, je me rends compte que j'insiste pas assez dessus. J'insiste dans mes cours parce que c'est un point clé essentiel. Mais auprès des auditeurs de podcast, vous en l'occurrence, je vous en parle pas assez et vous êtes pourtant des rédacteurs. Donc je vais revenir un petit peu là-dessus. Il faut repenser vraiment, prendre le temps de repenser le rédacteur web dans son environnement pour pouvoir... je joue à la balle en même temps avec Oli, la pauvre. Il fait chaud, elle va cramer. Mais je la crame aujourd'hui. L'environnement du rédacteur web n'est pas celui qu'il croit. Ce qui est en fait une espèce de biais de focus en quelque sorte. C'est-à-dire que les rédacteurs web, ils bouffent de la rédaction web tous les jours. Ils connaissent Lucie Rondelet, ils connaissent Audrey Clabec, ils me connaissent moi, ils connaissent Mathieu Verne, ils connaissent d'autres profils, ils connaissent Camille Gillet, ils connaissent des gens comme ça, ils ont l'impression qu'il n'y a que eux ou presque. Ils écoutent telle émission, ils lisent tel journal. Bref, rédacteur web à tous les étages. En soi, c'est génial. Parce que voilà, on est à l'intérieur d'un petit univers, on a notre monde, notre petite planète, nos petites règles, etc. Mais ce que les rédacteurs oublient la plupart du temps, ce dont ils n'ont pas conscience, c'est que personne ne nous connaît. On est dans un mini univers et j'estime, avec mon expérience, que peut-être 5% des gens savent qui on est et ce qu'on fait. 5% des gens qui travaillent sur le web, hein, je précise. 5 à 10% des gens. Ça va pas beaucoup plus loin que ça. Dans vos clients, il y a 5 à 10% seulement qui savent ce qu'est un rédacteur web, sa mission, sa capacité. Déjà que nous, on n'est pas capable de se mettre d'accord sur les objectifs. Quand je vois, avec toute ma bienveillance pour le projet, je trouve ça génial, quand je vois les débats qui se lancent autour d'un possible syndicat de rédacteurs web, autour de sa simple définition de mission, je me dis, on est loin du compte. Loin de pouvoir réussir à prétendre être quelqu'un tant qu'on n'arrive pas à poser une définition claire. Et moi, en plus, je fais partie de ceux qui ont changé la définition. Donc, je suis bien placé pour savoir que c'est particulièrement compliqué. Moi, quand je parle à un rédacteur web et que je me rends compte qu'il n'a aucune notion de marketing, d'aucune sorte, vraiment, hein, je ne comprends pas du tout. Ça me dépasse. Je ne comprends pas, en fait, comment il se prétend rédacteur web dans la mesure où web signifie sur le web. Et puis, des gens vous payent pour des contenus. Pourquoi payer si on ne vise aucune forme de rentabilité, aucune forme d'effet, rien? Pourquoi payer pour ça? Donc, dans le cadre d'une construction, les rédacteurs web peuvent être les architectes, ils peuvent être aussi les designers d'intérieur, et ils peuvent être aussi ceux qui fabriquent les briques. Et qui se fiche complètement de ce qu'on va construire avec. Donc, tant qu'on n'a pas défini ce qu'était le rédacteur web, ou au moins qu'on a donné des noms différents, c'est pour ça que moi, j'ai créé le rédacteur web communicant, en disant, voilà, vous avez le droit d'être rédacteur web, vous avez le droit de rester focus sur le fait que des gens veulent des articles de blog, et puis point, genre... Il n'y a pas d'autre réalité que celle-là. Les personnes veulent des articles de blog. Tu veux quoi ce matin? Un café? Non, mais moi plutôt un article de blog. Ces gens-là, ils peuvent choisir de se définir en tant que j'écris ce qu'on me dit. Et puis, je connais les techniques. Donc en fait, quand on me dit de mettre des mots-clés, je sais mettre des mots-clés. Et point, ça peut être la définition du rédacteur web. Mais la définition, ça peut être aussi... Je définis une stratégie éditoriale pour mes clients, stratégie de vente, j'étudie le tunnel de conversion et je vais déployer une communication efficace qui permet aux clients d'avoir plus de fréquentation selon les différents leviers qu'on a ciblés ensemble. Ça, c'est le rédacteur web communicant. Donc pour le coup, c'est vrai que ce n'est pas les mêmes rôles. Alors quand on les entend discuter entre eux, des fois ils se chamaillent sur la définition. Faut-il inclure la communication? Faut-il inclure le SEO? Faut-il inclure le marketing? Inclure ou non la création de site? Etc, etc. Et pour le coup, ça crée quelque chose de terrible qui est ce sentiment d'illégitimité que je crois, j'ai pas peur de dire, quasiment tous les rédacteurs web ont. Du fait même, et c'est là l'essentiel à comprendre, que le métier n'est pas défini. Donc, vous trouverez toujours des gens qui font mieux que vous, parce que le terrain n'est pas clôturé. C'est pas genre un boulanger. Le boulanger, il fait de la boulangerie. On peut juger de la baguette de pain si elle est excellente, bonne, fantastique ou médiocre. Je sais qu'il y a des variations possibles, mais globalement, on a une échelle de la baguette qui fait qu'on sait si le boulanger est bon ou pas. Après, il y a plein de leviers différents pour le boulanger. Il peut très bien travailler autrement, c'est un commerçant, etc. Mais au moins, son métier est défini. Je suis boulanger, je fais de la boulangerie. Il y a un certain nombre de recettes qui me sont disponibles et que je sais faire et que mes clients achètent parce que la qualité est suffisante. Mais il y a mieux, il y a moins bien, il y a des compagnons de la boulangerie, il y a des maîtres artisans de la boulangerie, il y a tout ça, il y a des très hauts niveaux, des choses inimaginables, incomparables, stupéfiantes, magnifiques, et puis des choses médiocres, basiques, des choses industrielles. On a toute la gamme, mais au moins on la comprend, cette gamme. Donc il faut qu'il y ait des gammes de rédacteurs web pour pouvoir mieux se vendre et mieux se cibler. Tu as besoin d'un rédacteur web SEO, tu as besoin d'un rédacteur web exécutant, tu as besoin d'un rédacteur web communicant, tu as besoin d'un rédacteur web intégrateur, je sais pas. Mais il faut trouver ces choses-là. Par contre, la vraie vérité, j'ai raté mon tir avec ma balle. C'est bien Lily, bravo, lâche. La vraie vérité, la vraie information, la plus dure en tout cas, c'est que nos clients ne savent absolument pas qui on est. Vous vous étonnez de ne pas recevoir suffisamment de commandes. Alors déjà, vous avez du mal à vous définir. Mais en plus, vous vous adressez à des gens qui ne savent pas vous définir non plus. Moi, j'ai déjà discuté avec un client qui m'a dit « j'emploie pas de rédacteur web parce que je ne sais pas écrire les briefs ». Alors, je comprends. Je comprends que la personne ait eu une rencontre avec un rédacteur web qui lui a dit « je ne sais pas non plus écrire les briefs ». Mais réfléchissons une seconde, c'est au rédacteur web d'écrire les briefs, c'est pas au client, sinon bah, pas de client. Parce que là, ce que vous demandez, la plupart du temps, et moi je suis là pour qu'on réfléchisse, hein, mais la plupart du temps, ce que les rédacteurs web demandent à leurs clients, c'est de savoir, attention, je vais utiliser un mot qui va vous choquer, mieux qu'eux-mêmes, ce qu'est leur métier. Votre client doit savoir mieux que vous ce qu'est votre métier afin de pouvoir définir un briefing qui vous convient. Et c'est là le principal problème. C'est que le client, il ne sait pas. Il ne sait tellement pas qu'il ne sait pas que vous existez. Les clients, si vous faites des recherches, vous allez sur Google Trends ou Google Ads, vous allez faire des recherches sur les volumes de mots-clés. Hein. Allez chercher le mot-clé rédacteur web, allez regarder son évolution et allez regarder ses volumes. Mais dites-moi si c'est normal que ce soit un mot extrêmement peu recherché. Mais vraiment. Alors, je suis plus sûr de mon chiffre, mais je crois que c'était 2000 requêtes par mois, quelque chose comme ça. Moins de 10 000 en tout cas, pour ce marché. Et c'est même pas forcément que des gens qui cherchent quelque chose. Ça peut être aussi juste des rédacteurs web qui cherchent de la documentation sur le métier ou ce genre de choses. C'est toute recherche confondue. Par contre, faites une autre recherche. Oui, Oli, tu me dis où est la balle ? Elle cherche la balle. Ah, c'est bien, elle a trouvé la balle. On va pouvoir repartir. Hop, faites une autre recherche sur le mot contenu de site web. article de blog, article à acheter, contenu à acheter, je ne sais pas, toutes ces variations-là, c'est-à-dire le produit. Et vous allez tomber sur des volumes plus importants. Et ça, ça signifie que nos clients ne sont pas ceux qu'on pense. Je vais vous représenter à peu près la réalité de ce côté-là. Vous avez d'un côté... Il va falloir que je pose le chien parce que là, elle va pas tarder à cramer. Elle est à fond. C'est la période sport. Vous savez, j'ai un lanceur de balles, une longue tige en plastique sur laquelle je peux poser une balle de tennis qui me permet de l'envoyer hyper loin, ce qui fait qu'elle, elle court, elle stoppe des sprints et puis après, elle ralentit, elle fait du fractionné. Ça lui fait du bien, sauf que là, comme il fait chaud, elle est cuite. Bref, je vous donne la vérité sur la situation des rédacteurs web. Sur 100% des clients qui ont besoin d'un rédacteur web, il y en a sans doute moins de 10% qui savent qu'il faut contacter un rédacteur web. Je répète, parce que c'est là où vous allez commencer à avoir des petites bulles dans le cerveau. Sur 100% des clients qui ont besoin d'un rédacteur web, même pas 10% savent qu'il faut contacter un rédacteur web. Les autres, ils tapent sur Google, acheter contenu ou ce genre de choses, et vous savez où ils vont ? Text Broker, Grid Content, ChatGPT aujourd'hui. Bref, les référenceurs SEO qui se vendent à notre place et qui disent « Oui, oui, vous avez besoin de contenu pour le SEO, pas de problème, on va vous faire des contenus pour le SEO. » Bon, là, le chien, il s'est couché. On va rester un peu. Allez, pose-toi, pas bouger. Pas bouger. Voilà, vous l'entendez ? Voilà. Elle est cuite. Bref, les référenceurs se vendent en SEO en disant qu'ils vont améliorer le SEO grâce à des contenus. Pourquoi ? Parce que vos clients qui ont besoin de contenu, écoutez-moi parce que là on rentre dans le marketing et vous allez comprendre à quel point c'est important le marketing. Vos clients qui ont besoin de contenu n'ont pas besoin de contenu. Les clients qui pourraient vous passer des commandes pour des contenus n'ont pas besoin de contenu. Vous vendez des contenus. Ah, mais alors ils veulent quoi s'ils veulent pas de contenu ? Eh bien, ils veulent par exemple un effet SEO. Donc, ils vont voir un référenceur qui va, lui, vous passer des commandes dégueulasses à bas prix et vous embêter et récupérer une partie de l'argent pour lui. Parce que la personne vient et dit « Moi, j'ai besoin qu'il y ait plus de gens sur mon site. » Les gens... À une époque, je disais ça, je disais, si vous voulez imaginer un produit, imaginez que votre client fait un vœu quand il le commande. Imaginez qu'il fait un vœu, que vous êtes un génie. Il vient et il vous dit, bon, je voudrais, je fais le vœu qu'il y ait plus de gens qui viennent sur mon site. Je fais le vœu qu'il y ait plus de gens qui me comprennent. Je fais le vœu que les gens partagent mon site et le considèrent comme une marque sûre. Je fais le vœu que les gens achètent davantage, etc. Ça, c'est des choses que nous pouvons réaliser avec les contenus. À condition de savoir définir un persona, définir des valeurs, définir ce genre de choses et pouvoir établir une stratégie de communication cohérente, claire, qu'on répercute sur l'intégralité du site pour en faire une expérience positive. Je fais le vœu que quelque chose de précis arrive. Les textes sont la réponse à ça, c'est-à-dire le moyen. Les rédacteurs sont toujours étonnés quand je leur dis « On ne vend pas de texte. » Les rédacteurs n'écrivent pas. Vous n'êtes pas en train d'écrire. Vous êtes en train de communiquer. Quand vous avez pigé ça, vous avez tout pigé. Et si vous commencez à faire du marketing, je vous l'assure, vous allez vous confronter à des questions qui sont simples et évidentes et qui vous concernent tout autant. Vous ne regarderez pas un film qui a une mauvaise affiche, un mauvais nom et qui commence par un monologue de 15 minutes. Vous ne regarderez pas ce film parce que vous êtes un client et que vous attendez un produit précis qui répond à un besoin précis. Donc on markete les choses dans le sens où on se soucie de comment ce produit va être pris par rapport aux besoins et à la psychologie du client. Qui est sa cible, pas de la personne à côté. Le client qui est sa cible. C'est là le cœur. Donc, quand vous commencez à travailler sur le marketing, vous commencez à travailler sur celui de votre client, Dieu merci, après tout, il vous paye et il espère ça, mais surtout, vous travaillez sur le vôtre. Vous commencez à comprendre que 10% seulement de vos clients sont des gens qui savent ce que vous vendez et qui viennent vous chercher pour écrire. Et les 90 autres vont ailleurs, alors que ce sont bien vos clients, parce qu'ils pensent que vous ne pouvez pas répondre à vos besoins ou qu'ils ne savent même pas que vous existez parce que bah, vous ne faites que écrire, vous. Les gens ne savent pas qu'ils avaient besoin de textes écrits. Ils avaient besoin qu'il se passe quelque chose de précis sur leur site. Et c'est là toute la différence. Les clients qui viennent vous voir et qui négocient à la dure, qui vous disent « Oui, alors j'ai 1000 fiches produits, ben écoutez, vous me les faites à 3 euros ou je vais voir quelqu'un d'autre », ce genre de choses. Bon, je peux comprendre, hein, c'est 1000 balles par euro en plus sur le prix. Mais en tout cas, c'est pas moi qui ai 1000 fiches produits. Et surtout, lui, il est en train de chercher le prix le plus bas possible. Donc lui, dès que ChatGPT s'est ouvert, bah, il a foncé pour faire ses 1000 fiches produits dessus. Grand bien lui fasse. Pas de chance pour lui. Parce que c'est pas comme ça que ça va se passer avec Google. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir que les clients qui viennent, parce que le syndicat, par exemple, qui est en train de s'ouvrir, essaye de lutter contre les baisses de prix des clients. Je suis d'accord, parce que les clients négocient vraiment à la dure. Ils nous mettent en concurrence, ils commencent à chipoter, des fois même ils nous volent des textes. On a le droit vraiment au pire du pire, mais c'est normal. Parce qu'on s'adresse, nos clients, qu'on laisse venir à nous, c'est les 10% qui savent à quoi on sert et qui viennent nous chercher juste pour écrire. Et qui nous dévaluent parce qu'ils veulent baisser les prix et parce qu'ils revendent nos textes à d'autres. Ce n'est pas les 90% qui sont des gens très bien, très gentils, respectueux, intéressés et qui veulent juste qu'on résolve leurs problèmes. On ne s'adresse pas aux bonnes personnes. Ma position n'est absolument pas contre ce syndicat. Je ne sais pas ce qu'il est en train de devenir. Ils ont fait un très bon sondage. C'était très intéressant, on a appris plein de choses et je pense qu'il faut qu'ils continuent parce que c'est vrai que si au moins ça peut engager des dialogues et créer de la cohérence, je suis à fond dedans. D'ailleurs, j'ai déjà relayé dans le cercle, à chaque fois qu'il y a des annonces ou qu'il y a des choses à voir, je relaye. Et j'y vais pas parce que je veux pas que ce soit contaminé par un formateur ou par un parti pris. Mais sinon, je suis les choses de loin. Donc, c'est juste que ça pose des questions de fond sur le positionnement du rédacteur web. C'est ça qui m'intéresse dans l'histoire. C'est-à-dire, je mesure par les questions que les gens se posent via cette démarche de syndicalisation à quel point le rédacteur web n'est pas formé, n'est pas conscient de la place qu'il occupe à l'intérieur d'un marché. Il n'est pas conscient forcément que les clients qu'il a aujourd'hui ne sont pas la totalité des clients qui pourraient venir. Il y a d'autres rédacteurs, par exemple nous on forme à WordPress en plus dans la formation rédacteur pro, parce que ça ouvre complètement un marché qui sont les primo-accédants qui veulent juste arriver sur le web dans des bonnes conditions. Donc pour le coup, ben on a un nouveau marché qui s'ouvre pour les rédacteurs qui pensent en termes d'éditorial, de tunnel de conversion, de contenu, de réassurance, de branding, etc., de communication. Donc le fait de pouvoir vendre le support avec est extrêmement intéressant et ouvre tout un marché de gens qui vont dire « Ah, moi je suis kinésithérapeute, j'ai besoin de me faire connaître, combien ça me coûterait de faire un site internet qui parle de ce que je fais ?» Et là, s'ensuit une conversation avec ce client kinésithérapeute je suis parasité par une vieille blague des années 70 de Serre. Je ne vais pas vous la faire. Mais... Bref, un kinésithérapeute qui a besoin de se différencier des autres. Donc, pour le coup, on va l'écouter, on va entendre ses valeurs et on va faire émerger ses valeurs de son site de manière à ce qu'il ait un public qui corresponde à ses valeurs, puisque c'est ce qui l'intéresse, c'est pas juste parce que bah, tu comprends, il est comme ça, c'est pas autre chose, c'est qu'il a, il crée un service pour des gens spécifiques. Par exemple, je sais pas, imaginons un kinésithérapeute qui veut travailler spécifiquement pour des raisons de sensibilisation qu'il a eues avec un public handicapé ou autiste, qui est difficile parce qu'il bouge, parce qu'il comprend pas, parce que machin, et lui a un très bon feeling, ça se passe bien, il a envie de travailler là-dessus. Je pense à ça parce que J'ai un ami psychologue, parce que j'ai fait des études de psycho. J'ai un ami psychologue très cher, à qui je n'ai pas parlé depuis quelques années, que je redécouvre aujourd'hui sous un prisme totalement différent, qui me réjouit le cœur au plus haut degré, parce qu'il est devenu un psychologue spécialisé dans le BDSM. Et alors, vous avez plein d'a priori sur le sujet, et je vous comprends, j'en avais aussi, mais je suis tombé sur un podcast de lui, et ce que j'ai entendu m'a émerveillé, m'a vraiment enchanté. J'ai compris pourquoi c'était un domaine qui l'intéressait. J'ai compris aussi pourquoi c'était un domaine où il pensait pouvoir être utile. Comment est-ce qu'il pouvait utiliser ces choses-là? Alors, ce n'est pas quelqu'un qui tyrannise ses clients, c'est quelqu'un qui accueille des clients qui ont des besoins BDSM pour leur permettre de les exprimer d'une manière saine, sécure et en faire un outil de progression dans les thérapies qu'il propose, etc. Donc, c'est extrêmement fin, c'est intéressant, c'est très bienveillant, c'est beau et c'est hyper intéressant. Et si vous avez des a priori sur le BDSM, chose que je peux comprendre, je vous recommande de taper dans n'importe quel moteur de recherche BDSM et de lire des gens qui veulent vous présenter une vulgarisation du domaine, parce que vous allez être choqué, comme je l'ai été, de vous rendre compte que c'est, le BDSM, ça pourrait s'appeler la sexualité adulte. Je fais une parenthèse dessus parce que moi, ça m'a élevé, ça m'a permis de comprendre des choses assez profondes et donc j'ai envie que vous en fassiez aussi l'expérience pour celles et ceux que ça intéresse. C'est-à-dire que le BDSM va se diviser, va pointer la sexualité telle que la majorité des gens la connaissent, c'est-à-dire une histoire de couple, voilà, qui se retrouve, qui s'aime, qui par l'action sexuelle, en fait, va prouver son amour et l'échanger et échanger de la tendresse. On appelle ça la sexualité vanille dans le domaine du BDSM parce que ben, la glace à la vanille, c'est celle que tout le monde aime. Et elle raconte pas grand-chose, mais elle est toujours un moment agréable. Donc, ils ont appelé ça sexualité vanille. Je trouve rien que déjà ça me fait rire. Et de l'autre côté, en fait, il y a des gens qui disent « Oui, mais si on enlève la notion du corps qui prend du plaisir, finalement, on peut peut-être se mettre à questionner toutes les autres formes de plaisir qui existent. » Et qui sont donc, alors ils ont fait un panel qui est peut-être incomplet pour certains, peut-être pas, je sais pas. C'est voilà, qui contient le bondage, c'est-à-dire les attaches, les cordes, les choses comme ça, la domination-soumission, donc c'est BD et DS et SM, ça se lit comme ça en fait. Donc DS c'est domination-soumission et SM c'est sadomasochisme, donc la douleur et le fait de souhaiter souffrir et le fait d'offrir de la souffrance ou le fait de souhaiter être dominé ou de souhaiter dominer. Tout ça en fait sont des points de jouissance et c'est une exploration adulte de ce qui fait ce qu'ils appellent le kink, c'est-à-dire le point de jouissance des gens. Ce qui leur procure un effet, de manière en fait à ce que, bah, d'une manière responsable, avec un cadre merveilleusement bien construit, eh ben, ils aillent à l'exploration de ces choses-là, découvrir un peu ce que sont leurs limites, qui y sont vraiment, et ça crée, bah, c'est presque thérapeutique comme démarche, et c'est extrêmement sain, c'est un domaine qui est bien plus sain que je le pensais. Voilà, et c'est un peu ça. Je vous transmets ça, je vous donne les bases, je vous invite à jeter un coup d'œil dessus par pure curiosité et ouverture d'esprit. Je vous invite pas à vous faire des trucs, ça je vous laisse faire. Mais voilà, et donc c'est vraiment un domaine, c'est pareil. Alors l'objet BDSM peut être intéressant dans cette conversation, dans le sens où c'est un domaine qui n'arrive absolument pas à se vendre. Parce qu'il est complètement... 50 nuances degrés par exemple est vraiment une représentation du BDSM, sauf que 50 nuances degrés, c'est principalement du viol, ce que vous voyez. Et c'est pas du tout le cadre du BDSM qui repose entièrement sur le consentement. Donc on est sur complètement autre chose. En termes d'image de marque, c'est particulièrement malsain. Même chose pour le sadique et le masochiste. Je vous recommande un film que j'ai vu il y a pas longtemps, qui s'appelle La Secrétaire, un film de 2002, qui est très troublant, très chouette, vraiment très bien fait, les acteurs sont géniaux. C'est une histoire croustillante, intéressante, et qui vous ouvre un petit peu à ça. Même si c'est encore autre chose, c'est du sadomasochisme, mais ça vous ouvre un petit peu à ces questions-là. Bref, le BDSM, c'est un domaine qui est sulfureux, alors qu'en fait, il ne l'est pas, une fois qu'on est dedans. Mais, enfin, je crois, des témoignages. Il est humain, profondément humain, comme quasiment tout, tous les domaines qui existent. Et la rédaction web, en fait, de son côté, elle a un peu le même problème, sans être basée sur... la sexualité adulte, hein, on est bien d'accord. Mais elle a un peu le même problème dans le sens où soit on la connaît pas, soit on en a un a priori, genre ça coûte cher et puis c'est juste quelqu'un qui écrit, pourquoi est-ce que je demanderais à une personne qui écrit de faire le taf alors que je peux écrire moi-même? Vous savez, vous les avez déjà entendus tous ces arguments. C'est des arguments d'ignorance, c'est des arguments de gens qui ne savent absolument pas de quoi on parle et qui ne comprennent pas l'intérêt. D'où le fait de, ben, peut-être de structurer le métier avec des appellations type qui donnent un sentiment de spécialisation. C'est du marketing, hein. Voilà, on donne un nom aux choses pour les définir et qui permettent justement de poser cette ouverture d'esprit sur le fait que quelqu'un possède une compétence que vous n'avez pas. Je suis rédacteur web communicant. Est-ce que vous savez communiquer? Bah un peu. Non, mais vous savez vraiment communiquer? Non. Bon, bah voilà, ça c'est mon boulot. Ah, d'accord. Je suis rédacteur web SEO. Est-ce que vous savez réussir à vous positionner sur Google? Bah non. Ok, bah ça c'est mon métier. Ah, d'accord. Je suis rédacteur web. Ah, et vous faites quoi? J'écris. Ah, ben moi aussi je sais écrire. Oui, mais moi j'écris mieux. Ah, bah oui, mais vous êtes cher. Bah oui, vous êtes à 50€ pour un texte que j'écrirai en une heure, ça fait donc 50€ de l'heure, c'est 3 fois le SMIC, c'est cher. Vous voyez, la question c'est ça, c'est comment est-ce que vous vous présentez et qu'est-ce qui fait votre valeur. Donc voilà, alors vous vous rendez compte un petit peu de la difficulté de tout ce dont on raconte, c'est-à-dire, enfin tout ce qu'on raconte, pardon, d'un côté, vous avez une minorité de gens qui savent ce que vous faites et c'est souvent pas les bons, c'est souvent ceux qui ont besoin de sous-traiter de la rédaction et qui viennent vous voir. Donc, ils viennent même pas chercher vos compétences. Hein. Vous vous êtes formé à des trucs et en fait, ils vous demandent rien. Ils vous disent « Ouais, ben, je te passe un brief, tu me fais le brief. » Désolé, mais ça, c'est niveau débutant. Hein. C'est n'importe quel brief, n'importe quel débutant, y compris ChatGPT. J'ai testé la dernière fois de prendre un brief d'un client, je l'ai donné à ChatGPT, il a fait le boulot comme il fallait, GPT-4. Bon, bah là, on n'a pas besoin de nous. À peu de choses près, je continue à dire qu'il ne faut pas utiliser ChatGPT pour générer des textes qu'on publie, mais par contre, voilà, ChatGPT est capable de faire le travail d'un rédacteur web de ce niveau-là, donc ce rédacteur web n'a pas de compétences. Alors je le dis comme ça un peu vite, ChatGPT a des compétences, mais le rédacteur web a des compétences équivalentes quand on ne cadre pas ChatGPT, qu'on lui donne juste des consignes. Les rédacteurs web qui testent ChatGPT, la plupart du temps, ils viennent et ils disent « Ouais, il est nul. Ah, c'est banal. Il balance des idées connes. Ah, c'est pas intéressant. » Ils ont fait quoi? Ils ont dit « Écris ce texte. » Et puis, ils lui ont donné un sujet. Et ChatGPT, il a fait ce que n'importe quel rédacteur web fait. C'est-à-dire « Tu veux que j'écrive ce texte? Ok, j'ai pas de cadre, j'ai rien. Ben, je te le fais quand même. » Et ce qu'il produit est nul, parce que n'importe qui produit des trucs nuls. Mais à partir du moment où vous avez une approche pro, une approche de communicant, en disant « ChatGPT, je veux que tu écrives ce texte », il s'adresse à telle personne qui a tel problème, et il est écrit par telle personne qui a telle solution, et le but c'est que la personne prenne conscience de ses problèmes et puisse évoluer en se disant que des solutions existent, blablabla. On fait tout le travail, qui parle à qui, de quoi, comment, pourquoi, et ChatGPT, il vous sort un machin, là, ça devient de la bombe. Ça devient indiscernable du travail d'un rédacteur web compétent, humain. C'est indiscernable, vous n'y arriverez pas. Donc, c'est juste que c'est un moyen de déléguer les choses. C'est ça qui est intéressant. Si vous arrivez à faire ça, ben vous avez un ChatGPT très puissant. Sauf que vos clients, ils ne savent pas faire ça. C'est l'objet de ma newsletter, notamment d'aujourd'hui. Les clients ne savent pas utiliser ChatGPT. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas ce qu'est un bon texte. Les clients ne savent pas ce qu'est un persona. Ils ne savent pas ce qu'est une valeur. Ils ne savent pas ce qu'est un objectif de communication. Ils ne savent pas à quoi servent les balises ou comment est-ce qu'on fait du SEO. Donc ils disent à ChatGPT, ils parlent comme à un enfant. Fais-moi un texte. Ah, trop bien, t'as fait un texte. Bon, bah, laissons-les faire. Google va les flinguer. Nous, on est capable de faire 100 fois mieux que ça. Mais il faut qu'il y ait un nom. Et surtout, il faut qu'il y ait une communication. ChatGPT, aujourd'hui, c'est l'opportunité de nous faire connaître sur des nouveaux marchés. Aller voir des nouvelles personnes. Démarcher des gens qu'on n'a jamais démarché auparavant. Le marché actuel du rédacteur web, c'est 10% du marché qu'il devrait avoir. C'est un monde de requins, parce qu'on a les 10% les pires qui sont là. Et on est tous en train de s'entretuer pour essayer d'avoir ces contrats-là, sachant que là-dedans, il y a en plus des très grosses plateformes, qu'il y a en plus ChatGPT qui vient d'arriver, qu'il y a en plus le marché international francophone, et on est tous sur ce mouchoir de poche-là. Alors qu'il y a 90% des gens à côté, qui savent juste pas qu'on existe, qui savent pas ce qu'on est capable de faire comme promesse, et qui passent complètement à côté, en écrivant parfois les textes eux-mêmes, parce qu'il y a des gens qui se lancent sur le web en se disant « Ouais, je vais pas mettre de budget, je vais me lancer, et puis je vais y arriver, ça va marcher tout seul. » J'ai l'exemple d'un client comme ça qui s'est lancé dans du CBD, qui a dit « Ouais, c'est ma femme qui va écrire. » c'est bourré de fautes. Et puis, c'est pas pertinent, et puis ça tient pas la route. Alors, je sais pas si c'est lui ou si c'est sa femme qui écrit, ça, je sais pas. Mais en tout cas, les textes souffrent beaucoup. Aujourd'hui, le client, il dit « Ouais, j'utilise ChatGPT pour tout maintenant, ça y est, il n'y a plus de fautes. » Bah oui, sauf que c'est toujours pas intéressant, et puis les informations que tu publies sont fausses, parce que ChatGPT, il a halluciné, parce que t'as pas conscience qu'il dit des bêtises, parfois. Donc, ce client-là, si on va le voir et qu'on lui dit « Mec, mets 1000 balles dans ton site, et je te refais tous tes contenus nickel. » C'est pas grand-chose, mais... Voilà. Et là, nous, on utilise ChatGPT, par exemple, en le reprogrammant complètement pour qu'il fasse les réécritures de tous les contenus qui sont faits, en rajoutant les bonnes informations, en corrigeant les anciennes, en faisant les mises à jour, en rajoutant les balises, etc. Puis après, on repasse derrière et on fait une réécriture dessus pour casser l'empreinte ChatGPT du texte afin de pouvoir améliorer le SEO. Et voilà. Et on fait ça pour tous les textes. Juste, je vous donne un autre exemple. Google a annoncé le Quality Content. Il a annoncé les Core Web Vitals, déjà, qui était un truc assez méchant que j'arrive pas à valider les Core Web Vitals sur mon site à l'heure actuelle. Je rame comme pas possible pour ça. Mais en tout cas, il y a les Core Web Vitals, qui sont donc des critères de santé d'un texte, d'un site, pardon. Il y a aujourd'hui le Quality Content, il y a les éléments EAT pour un contenu, donc le contenu doit être pertinent, informatif et de référence et d'autorité. Donc ça, c'est ce qui fait que les contenus sont extrêmement favorisés par Google. Mais en même temps, Google dit ben, « je vais en profiter pour regarder tout le site, c'est le Quality Content, et si je trouve trop d'articles de merde écrits par des gens qui n'ont pas fait tout ce qu'il fallait pour des raisons de budget, de temps ou de formation, eh ben, il descend tout le site. Il coule tout le site, il en a marre. » Donc ça, vous entendez ou pas l'opportunité commerciale pour les rédacteurs web, là ? Vous entendez le fait que vous pouvez envoyer des mails par centaines à tout ce que vous trouvez comme site web en disant « Est-ce que vous voulez qu'on fasse un audit EAT et un audit Quality Content afin de pouvoir évaluer le nombre de textes qu'il faudrait réécrire sur vos sites ?» Vous entendez qu'il suffit de faire les maillages et vérifier les textes un par un ou les passer carrément dans des analyseurs pour pouvoir évaluer les empreintes, qu'il vous suffit d'avoir 2-3 abonnements à des outils pour pouvoir faire des propositions extrêmement solides, quantifiées avec des scores, genre 1.fr, Your Text Guru, par exemple, Screaming Frog. Des outils basiques de ce type-là, des petits forfaits, vous incluez ça dans la prestation. Le client, quand vous arrivez à en choper un, ben vous avez 500 textes à refaire. Alors, c'est de la réécriture, hein, on ne se casse pas trop le crâne. Vous faites ça en partie, comme je disais, avec ChatGPT, et en partie, vous reprenez les choses derrière vous-même. Si vous savez faire que ChatGPT travaille très bien, ben voilà. Moi, je vous rappelle que je fais une mini-formation qui va sortir incessamment sous peu sur toutes les pratiques et les bonnes pratiques de ChatGPT qui permettent de l'amener au niveau pro. Voilà. Donc, pour le coup, vous pouvez booster les choses jusque-là. Et ça, c'est un marché, mais je ne connais pas un seul rédacteur web qui s'est lancé là-dedans, alors que c'est un marché pour nous. Les référenceurs, ils y vont. Les référenceurs, ils disent « Oui, j'ai analysé votre site, j'ai reçu encore ça, j'ai analysé votre site, il y a des contenus qui ne sont pas à la hauteur, attention, il y a quand même le quality content. Est-ce que vous voudriez qu'on fasse une évaluation plus fine afin de faire une budgétisation de la mise à niveau de votre site ?» Pour le rendre plus performant, le référenceur, il fait quoi ? Il va récupérer les textes qui ne sont pas très bien écrits, il va les enrichir avec 2-3 outils où il va confier ça à des gens, où il va utiliser ChatGPT pour ça, il va les refoutre sur le site, il va faire un enrichissement sémantique à droite à gauche, et puis le client va voir que la note monte, que l'effet monte, et donc il va se dire « j'ai bien investi, point ». D'abord, on peut faire ça, et puis on peut faire ça mieux. On peut faire un vrai travail éditorial, en disant au client, on va commencer par définir votre marque, et puis on va répercuter son discours sur tous vos contenus, on va en profiter pour faire que votre site soit au top. Et là, on récupère un marché génial. Personne fait ça. Personne fait ça. T'as fait ça ? Non, personne fait ça. Donc, personne ne le fait. On reste sur nos 10%. Là, on était un petit peu en marge. là, on tentait d'autres choses. Combien de gens voudraient aller sur Internet? Combien de gens voudraient ouvrir un WordPress avec un petit WooCommerce? C'est la petite plateforme qui permet de vendre des trucs sur WordPress pour pouvoir vendre des trucs, je ne sais pas, des formations par exemple. Combien de gens voudraient se lancer dans la formation et n'ont pas les connaissances techniques pour déployer un LMS compétent, genre LearnDash par exemple, qui coûte 150 balles par an pour le système complet? Donc combien s'en sortent pas avec les noms de domaine ou ne savent pas quoi publier ou n'ont pas d'idées ou... Combien auraient besoin d'une vraie expertise pour pouvoir avoir une ligne éditoriale forte et surtout aimeraient se débarrasser de cette charge-là pour n'avoir que les chiffres à observer? Combien de personnes adoreraient vous donner leur travail qui leur prend du temps? Ils n'aiment pas faire ça. Ils vendent des chaussures en ligne, ils vendent des livres, ils vendent des dessins, c'est des artistes, des trucs. Et puis il faut qu'ils écrivent encore. Combien en ont marre de ça? Alors vous savez quoi? Vous avez différents tarifs qui existent maintenant en tant que rédacteur web augmenté. Vous pouvez dire à votre client, écoutez, moi je peux faire des articles pour vous, voilà combien ça coûte, ah là là c'est cher, oui. Ce que je peux faire sinon, c'est je fais un travail pour vous que je vais générer avec ChatGPT, je vais faire un travail dessus, ça va me prendre deux fois moins de temps, je vais m'assurer que le texte va être complètement conforme à toutes les règles SEO. Donc, c'est pas lui qui va être généré intégralement, etc. Et je vous fais des contenus faciles, rapides, pas chers, qui vont vous permettre d'avoir toute une base lexicale. Et après, on va investir dans les articles qui sont vraiment différenciants, vraiment porteurs, vraiment majeurs. On va se garder les meilleurs sujets qu'on va faire à la main, qu'on va travailler avec des articles, des infographies, des vidéos, ce genre de choses. Et puis, on va après utiliser ChatGPT pour toute la base derrière qui n'est pas très intéressante, mais qui va être juste bien écrite, propre, nickel. Ben, le client, il a baissé sa facture de 40%. Et vous, vous allez travailler à un tarif horaire qui sera tout à fait convenable. Et des clients comme ça, ben, de toute façon, c'est pas la peine de dire « Ouais, mais ChatGPT est en concurrence avec nous. » Les rédacteurs vont pas aller voir ces clients-là. C'est d'autres que des rédacteurs qui les piquent. Alors si ChatGPT nous permet enfin d'accéder à ce genre de choses parce que ChatGPT est en capacité de remplacer une agence entière et qu'il est maintenant à votre service, dans votre poche, prenez la version payante, je vous en supplie. Ça vous coûte 20 balles par mois. Bref, à ce moment-là, où est la concurrence si on commence une expansion? Donc, à un moment donné, il faut repenser les choses un peu autrement. Voilà, je finirai là-dessus. Je ne vais pas forcément faire un épisode très long sur le sujet. Mais en tout cas, nous sommes très méconnus. Nous nous vendons extrêmement mal. Nous vendons des textes. Personne ne veut acheter des textes. Vous ne voulez pas acheter de textes. Vous voulez acheter des choses qui vous font gagner de l'argent. 90% des clients qui pourraient nous passer commande ne savent même pas ce qu'on fait pour eux, ils ne savent même pas à quoi on sert. Et la plupart du temps, ne savent même pas qu'on existe. Faites le test, vous êtes dans un dîner, on vous dit vous faites quoi dans la vie, vous dites je suis rédacteur web, vous demandez aux gens de lever la main s'ils savent ce que c'est. Bon, vous allez vous rendre compte à quel point notre métier est totalement méconnu, c'est du B2B, mais c'est pas obligatoirement du B2B, ça peut devenir un peu autre chose. Alors, je crois que quoi qu'on fasse, on sera dans du B2B. Mais... parce que je vois pas pourquoi une personne achèterait un texte qui ne sert à rien. Donc, on a tous ces problèmes-là. On a ChatGPT aujourd'hui qui arrive et qui nous dit si tu as envie qu'on aille attaquer d'autres marchés, moi je suis open. On a un problème de différenciation à l'intérieur du milieu de la rédaction web où on mélange tout et on n'est pas capable de se définir parce qu'en fait, on n'est pas capable de se compartimenter en spécialisation. Donc moi, je vous le dis, je suis rédacteur web communicant, je forme des rédacteurs web communicants, voilà. Ils ont une étiquette, ils l'annoncent, maintenant, vous allez sur LinkedIn, vous voyez des gens qui indiquent rédacteur web communicant, point. Parce que ça signifie qu'ils savent communiquer. Et c'est leur boulot. Selon moi, c'est ma définition, c'est mon école. Il y en a d'autres qui vont vous former au rédacteur web SEO, parce que c'est ça, leur vision. Très bien, mais donnons des noms. Et compartimentons les choses. Et soyons très clairs sur le fait qu'un rédacteur web communicant n'est pas un rédacteur web SEO. C'est pas les mêmes compétences. Et ça va, à ce moment-là. Mais surtout, ça permet de communiquer plus efficacement. Le rédacteur web SEO, vous savez, la stratégie du rédacteur web SEO, c'est d'envoyer un mail en disant « Oui, j'ai vu votre site, est-ce que vous êtes satisfait de votre fréquentation? Votre blog, il ne tourne pas assez, voudriez-vous peut-être qu'on travaille le SEO ?» Voilà, bah, c'est tout à fait pertinent, parce que la personne se dit « Ah tiens, si j'investis, je vais avoir plus de fréquentation, ça m'intéresse. » Il y a une promesse, elle est claire. Voilà, le communicant, c'est la conversion et la fidélisation. C'est là-dessus que le communicant va travailler, en disant « Oui, est-ce que votre marque est suffisamment bien représentée? Qu'est-ce qui se passe auprès des gens qui viennent? Comment est-ce qu'on convertit davantage? Est-ce que vous avez déjà pensé à faire telle et telle chose ?» Voilà. Donc le communicant, il va dire « On ne mettrait pas une petite newsletter parce que justement, vous avez intérêt à garder le contact avec les gens pour faire du lead nurturing, etc. » Là où le rédacteur web SEO, normalement, n'a rien à faire dans la newsletter, dans la mesure où il n'y a pas de SEO dans la newsletter. Vous voyez le raisonnement ? Donc, bref, spécialisons-nous, communiquons, allons chercher des nouveaux marchés, partons de l'idée que personne ne nous connaît alors qu'on a l'impression qu'on est les rois du monde. Personne ne nous connaît, on est insignifiant, on est la fourmilière au fond du jardin, d'accord ? Essayons de changer ça. Et on aura beaucoup plus de place pour tout le monde. Ma newsletter ce matin, elle portait sur le fait que ChatGPT était une vraie opportunité. Le rédacteur web augmenté, qui a encore un autre nom qui arrive et qui est la version assistée du rédacteur web communicant. Le rédacteur web augmenté, en fait, est vraiment aujourd'hui en capacité de prendre en charge des travaux à l'échelle d'agence. Et c'est plus les mêmes contrats, et c'est des choses très différentes. Alors il a toutes ses preuves à faire, et parce qu'on ne lui fait pas confiance comme ça, et on ne va pas lui refiler des gros chèques comme ça. Mais par contre, il va prendre du terrain de plus en plus, et si tout se passe bien, dans quelques années, ben, on appellera d'abord le rédacteur web augmenté avant de commencer à voir les autres choses. On travaillera l'éditorial et la stratégie avec lui avant de commencer à réfléchir au reste. Parce que pourquoi pas ? Donc c'est juste ça pour toutes les personnes qui trouvent que le monde est devenu trop petit. Toutes les personnes qui disent que ChatGPT... Il y a quelqu'un qui m'a écrit à un moment donné dans un retour de mail. Changez de métier, vous voyez bien que ChatGPT vous a buté, vous êtes des escrocs d'essayer de former des gens. Ben, moi, ma réflexion, c'est l'expansion. C'est-à-dire, il n'y a plus assez de gâteaux, il y a ChatGPT, il a pris la moitié du gâteau. Ben, moi, je veux qu'on ouvre une boulangerie. Une pâtisserie en l'occurrence, et qu'on ait suffisamment de gâteaux pour tout le monde, y compris avec ChatGPT, et même qu'on aille avec ChatGPT pour aller vers d'autres gâteaux ensemble. Mais c'est le même raisonnement, je vous donne un autre raisonnement pour finir. Les rédacteurs web, on les a beaucoup mis en concurrence, vous savez, les rédacteurs web français face aux rédacteurs web malgaches, ou béninois, ou Congo, Togo, Mali, etc. Les rédacteurs web francophonie du Nord face aux rédacteurs web francophonie du Sud et nos clients, toujours les 10% les meilleurs du monde, hein, ils sont amusés à faire baisser les prix des Français en les rabaissant bien en dessous du seuil de pauvreté. Et vous savez quoi? Ils ont fait la même chose avec les Malgaches. Ils ont rabaissé, alors déjà les Malgaches c'est pas chaud au niveau tarif, mais ils ont réussi à couper le tarif par 10 ou par 20 et ils les écrasent. Donc moi mon raisonnement c'était de dire pourquoi les rédacteurs web français n'engagent pas les rédacteurs web malgaches? Pour travailler en binôme, faire mieux, faire plus, être sur des meilleurs marchés, partager le gâteau, se régaler ensemble. C'est un des raisonnements que défend le cercle des rédacteurs. Et on a déjà eu des rédacteurs qui ont travaillé ensemble, comme ça, entre les continents, et c'est extrêmement rentable pour tout le monde, et quand tout le monde est bien formé et tout le monde parle la même langue, c'est redoutable d'efficacité. Donc ça se réfléchit aussi, pourquoi est-ce qu'il faut qu'on soit en concurrence? On n'a qu'à s'allier. Ben, c'est le même raisonnement que j'ai avec ChatGPT. Vous voyez, je suis très cohérent. Les amis, je vous laisse. J'espère vous avoir ouvert les horizons et que vous avez compris à quel point nous sommes dans un mouchoir de poche en train de nous battre pour des miettes de gâteau que des gens méchants nous jettent et qu'on peut tout à fait sortir de la boîte et aller conquérir le monde si on le souhaite. Surtout que maintenant, on a ChatGPT. Allez, je vous laisse. À bientôt.